Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Yvon Lutumba.
Ce journal s'ouvre par cette dénonciation de l'armée congolaise. Les forces négatives du M23 violent la trêve humanitaire en attaquant les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange et Mpati. Nous vous en parlons tout de suite. Nous faisons également le point sur ce qui paraît comme un malaise au sein de l'archidiocèse catholique de Kinshasa. Pendant que l'assemblée du clergé de Kinshasa fustige la gestion un peu régulière du cardinal Fridolin Ambongo à la tête de l'archidiocèse, le secrétariat de la chancellerie réagit en ne reconnaissant pas la compétence du signataire de cette dénonciation. Denis Tukuzu, directeur provincial de la SNL, est celui que nous recevons comme invité en fin de cette édition. Il nous parle des efforts que son entreprise fournit pour endiguer le phénomène des délestages à Kinshasa. Amis auditeurs, merci de nous choisir pour votre information. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Les forces armées de la RDC accusent le Rwanda de violer la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis d'Amérique en lançant des attaques simultanées le mercredi 10 juillet sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant dans les villages Nyange et Mpati. Ces deux villages sont situés à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu.
Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Mpat, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggraver davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causer une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire.
En plus bref, concernant toujours l'armée, sachez que le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements est arrivé jeudi 11 juillet à Beni au Nord Kivu pour une visite de travail. Selon des sources militaires, le général Jacques Tchalingo Zandourou devait rencontrer le commandant des troupes ougandaises déployées à Beni et à Ituri dans le cadre des opérations conjointes contre les rebelles des ADF ainsi qu'évaluer la situation sécuritaire à Beni, Butembo et Lubero. À noter que le général Tchalingo Zandourou est le premier haut gradé de l'armée congolaise à arriver dans la région depuis l'occupation des rebelles du M23 de certaines cités du territoire de Lubero. Actualité toujours dans la province du Nord Kivu. Un mouvement de retour des personnes déplacées vers leur village s'observe toujours dans le territoire de Rutshuru. Selon les statistiques fournies hier mercredi par l'ONG locale La Veille Humanitaire de Bito et du sud de Lubero, un peu plus de 20 800 ménages, soit plus de 100 000 personnes déplacées, sont retournées entre le 1er et le 10 juillet courant dans la chefferie de Bito. Cette structure plaide pour un accompagnement humanitaire en faveur de ces retournées, comme nous le dit Bernard Danyangi.
Selon l'ONG La Veille Humanitaire de Bwito et sud de Lubero, la commune rurale de Kanyabayonga, qui comptait plus de 73 183 personnes déplacées, soit près de 15 000 ménages, il reste à ce jour moins de 9 000 ménages. Ce mouvement de retour touche aussi les personnes qui se sont déplacées dans le village de Miriki, Luofu et Kaina, entre autres. Elles quittent ces agglomérations du sud de Lubero pour retourner dans leurs biens, notamment dans le Bwito en territoire de Rutshuru. Toutefois, cette ONG humanitaire locale affirme que ces retours spontanés devraient être accompagnés du fait que ces ménages, pendant leur fuite, avaient perdu tous leurs biens. Ils auraient ainsi besoin d'une assistance en vivres et en articles ménagers essentiels, affirme Paris Mastaki, coordonnateur de cette structure locale. Ce mouvement de retour s'accélère avec la calmie consécutive à la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis dans la zone, et qui en est ce jeudi à son sixième jour, ajoute le représentant du Parlement des jeunes, territoire de Rutshuru. Celui-ci encourage les ONG qui interviennent déjà dans le Bwito, comme MSF, et appelle les autres à intervenir. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Dans la province de Litouri, les comités des déplacés dénoncent l'impunité des auteurs de massacres de plus de 100 personnes depuis plus d'une année dans les sites de Savo et de Benza dans le territoire des Djougou. Selon eux, les auteurs de ces graves violations des droits de l'homme qui sont connus ne sont toujours pas arrêtés. Ce qui, selon eux, accentue les menaces des miliciens contre les déplacés dans le territoire des Djougou. Ils l'ont dit au coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies lors de sa visite mardi dans la zone. Reportage Isaac Moyopé.
Trois attaques meurtrières sont déjà enregistrées dans les sites des déplacés par des présumés miliciens de la Codeco dans les territoires des Djougou. À Benza, les bilans d'une double incursion à date du 1er février 2022 et du 19 janvier 2023 étaient de 69 morts, affirme le représentant de ces déplacés dans son discours à la délégation de l'ONU mardi à Boulé. 46 autres déplacés ont été tués par le même groupe armé en juin 2023 au site de Savo, ce qui fait un total de 115 morts sans compter d'autres déplacés en quête de vivres tués dans les champs. Selon les victimes, les auteurs de ces crimes contre l'humanité sont identifiés mais jamais poursuivis, ce qui les encourage à de nouvelles attaques contre la population. Emmanuel Ndalo, représentant de ces sinistrés des Djougou.
Une enquête approfondie par la communauté nationale et internationale serait nécessaire pour punir les auteurs des crimes contre l'humanité perpétrés par des combattants de Codeco dans les sites de déplacés en Ituri.
L'auditeur supérieur près la cour militaire de Litouri indique qu'un dossier est déjà ouvert contre un groupe armé inconnu et que les victimes et les témoins ont été attendus lors des missions sur le terrain du crime. Ils demandent aux déplacés de fournir l'identité des auteurs pour qu'ils soient arrêtés et répondent de leurs actes devant la justice. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, plusieurs experts comptables aussi bien de la RDC qu'expatriés ont pris part ce jeudi à l'ouverture du tout premier congrès qu'organise l'Ordre national des experts comptables. Sont également présents à ces assises des responsables des organisations internationales des comptables. C'est le cas de la Fédération internationale des experts comptables IFAC. Le premier panel de cette première journée a porté sur la crédibilité, la confiance et la pertinence de la profession d'expert comptable. Les explications du président de l'ONEC RDC à ce sujet au micro de Daniel Tambizoni Lunga.
Notre profession, nous l'exerçons efficacement et utilement lorsque le public a confiance dans l'expert comptable. L'expert comptable, c'est le tiers de confiance.
Il y a eu quelques petites observations dans l'assistance par rapport à l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Les comptables craignent que leur profession n'a pas d'avenir dans 5-10 ans.
Bon, que les experts comptables s'inquiètent, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il ne faut pas rester à ce niveau-là, plutôt anticiper par rapport à la situation qui pourrait être celle de l'expert comptable dans un contexte où il y a l'intelligence artificielle. Parce que à l'époque, les experts comptables s'inquiétaient du fait que les systèmes étaient de plus en plus informatisés et donc cela ne relevait plus de leurs compétences, mais ils ont pu trouver des solutions.
Ici, toujours à Kinshasa, l'artiste musicien Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CESAC voulait l'entendre après son passage à l'émission Le Panier de Morning Show sur la télévision nationale en début de semaine. Dans un communiqué, le CESAC l'accuse d'avoir tenu des propos de dénigrement et de démobilisation des FRDC engagés au front en violation des directives édictées sur les émissions concernant le déroulement des opérations militaires au front. Au sortir du bureau du CESAC, Koffi Olomide a déclaré, je cite, c'était plus pédagogique qu'autre chose. On a parlé et on s'est compris. Fin de citation. Le CESAC lui a demandé cependant de mesurer ses propos au vu de son titre d'ambassadeur de la rumba congolaise. Au cours de cette émission, Koffi Olomide, réagissant à l'agression rwandaise et à l'avancée des troupes du M23 dans le Nord Kivu, a notamment déclaré, je le cite, « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. La guerre, c'est quand on tire, nous répliquons. » Fin de citation. Sachez par ailleurs que Jessica Basselé, le présentateur de l'émission, est suspendu de ses fonctions à titre préventif depuis hier mercredi. Malaise dans l'archidiocèse catholique de Kinshasa. L'assemblée du clergé de Kinshasa à Sekine dénonce qu'elle qualifie de mégestion du cardinal Fridolin Ambongo à la tête de l'archidiocèse. Dans un message du professeur abbé Placide Okalema, président de la Sekine, un message adressé au cardinal, les abbés peignent le tableau sombre notamment des relations archevêque-prêtre, de la vie spirituelle, de la politique économique et de la gestion de l'archidiocèse jugée opaque. La lettre de la Sekine a envahi la toile après la journée du clergé le rapport des activités de tous les services diocésains le 4 juillet. Hier, mercredi 10 juillet, au cours d'un point de presse qu'il a animé au centre pastoral Lindongué, l'abbé secrétaire chancelier Claire Clay Mamvemba a recadré l'auteur de cette lettre du clergé quinois, dont le signataire, a-t-il dit, n'est pas reconnu par l'autorité compétente. Jeff Ngoy.
Selon la Sekine, la relation archevêque-prêtre est de plus en plus toxique par l'indifférence dans le cas de deuil qui frappe les parents des abbés, le manque de confiance et de considération sur le plan de la vie spirituelle, le clergé déplore les conditions matérielles d'organisation des retraites, la gestion économique de l'archidiocèse n'est pas transparente. La Sekine appelle ainsi l'archevêque à un travail d'analyse en profondeur de la situation par les structures reconnues canoniquement et d'autres à créer pour les besoins de la cause. L'abbé secrétaire chancelier répond.
Ce comportement est déploré par la grande majorité du clergé de Kinshasa qui ne se reconnaît pas dans cette lettre contenant des affabulations que contredisent les faits et les rapports des services présentés lors de cette journée du clergé. Les structures mises en place fonctionnent correctement et sont régulièrement consultées. Ils prouvent que la vie économique et financière de l'archidiocèse de Kinshasa repose sur des principes clairs, de rigueur, de transparence, d'équité, avec un suivi permanent d'évaluation du budget prévisionnel et du rapport financier.
Pour l'abbé chancelier, le professeur abbé Placide Okalema n'a pas la légitimité d'engager tous les clergés de Kinshasa.
Actualité parlementaire à présent, adoption hier mercredi du nouveau règlement intérieur de la chambre haute du Parlement. Au cours de la séance plénière, les 80 sénateurs présents ont unanimement voté en faveur de ce document. Parmi les innovations retenues après deux jours de suite de débats, il y a notamment les obligations morales qui incomberaient désormais aux sénateurs à vie afin qu'ils soient véritablement membres du Sénat. On écoute le président de la commission spéciale portant élaboration du règlement intérieur, Christophe Lutundula, au micro de Michel Kifindangoy.
Le règlement prévoit que les sénateurs à vie, c'est-à-dire en fait les anciens chefs d'État, ne sont soumis à aucune des obligations auxquelles sont astreints les membres de la Chambre haute. Votre commission, en toute modestie, a estimé qu'il y a quelques contraintes qui relèvent de l'ordre moral. Et donc, il était nécessaire que la dignité, les rangs, la considération et l'image du Sénat soient préservées par tous, fussent-ils les collègues à vie, anciens chefs d'État. Et ensuite, les lois de la République, la Constitution, doivent être respectées par tous. Et enfin, une autre contrainte morale, je souligne le terme moral, c'est que à partir du moment où on porte le titre, on a le statut. Parce que là, il y a des droits et des obligations des sénateurs. Nous nous devons respect, considération et solidarité.
Sachez que ce règlement intérieur a été envoyé à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité à la Constitution. Notez toutefois que la disposition proposée par la Commission lors de la présentation de son rapport à la plénière portant sur l'obligation aux sénateurs à vie de participer aux travaux parlementaires en plénière et en commission a été extirpée du règlement intérieur pour ne pas énerver la Constitution en son article 104 qui veut que le sénateur à vie soit un titre honorifique, estiment les proches du sénateur à vie Joseph Kabila. En plus bref, avant de passer à la page internationale, au sud Kivu, les sinistrés du site de Katachola dans le territoire de Calais qui ont perdu les toitures de leurs abris se trouvent confrontés aussi au problème de manque de nourriture. Il y a 7 mois, ces sinistrés n'ont pas reçu d'assistance alimentaire des organisations humanitaires qui se sont lancées à leur prise en charge depuis la survenue de la catastrophe naturelle du 4 mai 2023. Et puis en Mbujimayi au Kasaï oriental, suspension ce mercredi en Mbujimayi de toutes les activités de construction des maisons effectuées sur le site Mintembele Kerele depuis quelques mois entre la société minière de Bakwanga Miba et les membres de l'association de Bakwanga Unie pour la reconstruction et la prospérité. Ces décisions sont contenues dans un arrêté signé et publié ce mercredi par le gouverneur des provinces du Kasaï Oriental.
Actualité internationale.
Le président kényan William Ruto a décidé de frapper fort en révoquant la majorité de ses ministres et le procureur général. Cette annonce choc a été faite lors d'une allocation télévisée ce jeudi. Seul le premier secrétaire de cabinet et le secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora ont été épargnés, de même que le vice-président. Ces décisions interviennent après 3 semaines de manifestations violentes contre l'adoption d'un projet de loi des finances augmentant les impôts. Ces protestations qui ont fait 39 morts selon les ONG ont évolué en appel à la démission de William Ruto. Le président du Kenya justifie cette décision en affirmant qu'elle était nécessaire pour répondre aux demandes du peuple kenyan et améliorer la gouvernance du pays. Et puis, dorénavant, l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et sont punies par la loi au Burkina Faso, a fait ainsi savoir le ministre de la Justice Edazod Rodrigue. Le gouvernement du pays dirigé par une junte militaire a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui vise à interdire l'homosexualité. Les peines encourues n'ont pas été précisées.
L'invité.
La SNEL travaille pour arriver à ce qu'on appelle délestage zéro en 2026. Ces propos sont du directeur provincial de la SNEL dans une interview exclusive à Radio Okapi. Pour Denis Tukuzo, la SNEL rencontre beaucoup de difficultés concernant surtout les maisons qui sont construites au-dessus des câbles électriques. Qu'à cela ne tienne, assure-t-il, cette compagnie de l'État met en place un dispositif pour garder le cap sur la desserte en électricité et envisage d'éradiquer le délestage dans la ville de Kinshasa à l'horizon 2026. Denis Tukuzo s'entretient avec Blaise Chinda.
Bonjour, messieurs les directeurs.
Bonjour, Radio Okapi.
Quelle est la situation actuelle de la desserte en électricité à Kinshasa?
Oui, la situation actuelle de la desserte en électricité à Kinshasa, c'est celle que vous constatez. Elle est quasi stable sur le plan de la desserte.
Il y a eu une nette amélioration ces derniers temps, mais là, on tombe sur un document officiel de la SNEL intensifiant les délestages dans presque toutes les communes de la ville. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Ce document n'est pas à considérer. Si vous regardez la date est largement dépassée. Donc, pour le moment, la desserte est stable tel que vous le voyez. On a un problème au niveau de la centrale où on va intensifier les délestages.
Il y a certes une nette amélioration dans certains quartiers, mais dans d'autres, non. La population continue à se plaindre des délestages à longueur de journée.
Oui, c'est ce que nous avons dit, que nous tendons vers ce qui est parfait. La ville est vaste et la ville est confrontée à plusieurs problèmes exogènes qui impactent sur la desserte de l'énergie. Vous voyez des constructions anarchiques, il y a pratiquement des empiétements de nos câbles, hein. Quand les gens construisent sur les câbles et que ces câbles-là qui desserrent un quartier tombent en panne, vous localisez la panne et la panne se retrouve en dessous des pavements du salon de quelqu'un. Donc, vous, comme SNEL, vous n'allez pas casser sa maison. Donc, nous devons chercher des câbles pour les contourner. Et c'est ce qui allonge parfois la durée d'intervention. Mais que cela ne tienne, nous avons les moyens nécessaires maintenant pour faire notre travail. C'est ce que vous constatez, et que dans certains quartiers, on peut avoir un problème d'obscurité, mais ce problème-là n'est pas lié à la situation générale, mais ce sont des cas spécifiques pour un quartier et l'autre. Soit c'est un câble qui est empiété. Je vous donne le cas, par exemple, de l'aéroport d'Engili. Le grand câble qui alimente en secours l'aéroport d'Engili, qui est un site stratégique, des Massina jusqu'à l'aéroport, c'est 11 km de câbles posés sur le sol. Mais ces câbles sont empiétés. Les gens construisent même juste sur les câbles. Vous voyez, donc quand ça tombe en panne, carrément, nous devons chercher encore des câbles pour contourner, parce que on ne sait pas casser toutes ces maisons.
Oui, monsieur le directeur, donc vous pouvez dire qu'il n'y a pas un problème majeur au niveau de la barrage d'Inga au Congo central, comme d'aucuns le disent ici à Kinshasa.
À Inga, tout est relativement calme, et la preuve est que dans la ligne de transmission, l'énergie est arrivée à Kinshasa. Et si vous avez bien compté, vous allez voir que nous allons plus d'un mois que la situation de la desserte est presque stable partout. Et c'est ce que nous tenons. À travers l'initiative du directeur général, nous avons mis en place un plan de stabilisation. Et que ce plan de stabilisation va nous amener de 2024 à 2026. Et la SNEL est en train de travailler.
Dites-nous alors, on parle souvent de la surcharge des câbles électriques. Quelle solution préconisez-vous pour pallier à cette difficulté?
La solution est que nous avons reçu un premier lot de câbles, un lot important de câbles qui vient d'arriver. Et la solution s'appelle assainissement. Assainissement veut dire quoi? Remplacer ces câbles par des câbles à des dimensions bien déterminées et implanter certaines nouvelles cabines pour décharger celles qui sont surchargées. C'est le travail qui est en train d'être fait et c'est moi. Et nous allons les étendre durant 2 ans.
Enfin, pour terminer, messieurs les directeurs, est-ce que la population congolaise en général et quinoise en particulier peuvent-elles espérer vivre un jour avec zéro délestage?
Oui, les zéro délestage commence par à la réduction drastique du délestage. C'est ce qui a déjà commencé. Et la population doit espérer parce que la SNEL est là, elle travaille. Quand vous voyez de près, nous ne faisons pas trop de bruit, mais nous sommes en train de travailler. Nous avons maintenant des camionnettes, double cabine 4x4, SNEL et moi, qui roulent par-ci, par-là. Et l'équipe est en train de travailler. Le ministère vient d'autoriser certaines actions à mener. Les DG est avec nous chaque jour en réunion et en train de surveiller. Et les agents sont en pleine forme. Et nous sommes en train de travailler pour atteindre ce qu'on appelle le délestage zéro. Et nous avons dit le plan de stabilisation va s'étendre de 2004 à 2006. Je dis de 2004 à 2006 où nous allons partir de mieux en mieux jusqu'à atteindre le point de l'étage zéro.
Monsieur Tukuzu, directeur provincial de la SNEL à Kinshasa, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.